recherche scientifique. Et donc, elle travaille sur la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et donc spécialiste en anthropologie politique, judiciaire, juridique, mais aussi religieuse. Donc, on a déjà eu l'occasion de l'entendre dans la première session de ce matin. Et Antoine Garapon, il est magistrat, docteur en droit, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice et auteur de plusieurs ouvrages sur le droit à la justice. Je vous cède la parole pour la discussion des trois communications de cette session. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. En quelques mots, oui, je suis anthropologue et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur les audiences du TPI et je travaille maintenant à la Cour pénale internationale. Je vis à La Haye, à la CPI, et je suis anthropologue en chambre puisque je travaille dans une chambre d'instance d'une affaire au Congo, l'affaire Katanga et Ngudjolo Chui, mais aussi dans l'affaire Bemba. Je regarde donc le travail de la chambre, des juges et des assistants juridiques. Et je suis le matin à l'audience. Voilà. Donc, je vais peut-être, avant de parler des communications, vous situer un peu les communications que j'ai entendues depuis un certain type de point de vue, puis je rentrerai dans le détail des communications ensuite. Si, loin de leurs déclarations de principe purement normatives, les discours publics d'Ocampo, par exemple, que citait Cora tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse réduire le travail de la CPI aux discours normatifs qui ont certains types de destinataires, qui sont des discours d'un certain type normatif et qui font leurs effets. Mais Ocampo n'est qu'une partie au procès. Et si donc, plutôt que de se préoccuper, s'agissant de ces cours pénales internationales, que ce soit les tribunaux ad hoc ou que ce soit la Cour pénale internationale, on considère plutôt leurs pratiques, les pratiques effectives des TPI, on constate que ces instances sont constamment mises en demeure, au cas par cas, affaire après affaire, d'affronter à nouveaux frais les situations complexes que présente à chaque fois la détermination de la relation droit-vérité-politique. Et quand je parle des tribunaux pénaux internationaux, je parle donc non pas de l'institution comme étant une voie officielle, une seule voie, représentée par exemple par un de ses juges, par le président de la cour ou par le procureur, mais je parle de son déploiement pratique au niveau des procès. C'est-à-dire de ce que font et de ce qu'activent toutes les parties et participants au procès. Chacune des parties et des participants développe, dans une procédure contradictoire, des types de récits, et ces types de récits finissent par produire un certain type de description. Et c'est ce type de description qui est si particulier et qui va modifier profondément les images qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un conflit, de ce que c'est qu'une guerre, de ce que c'est qu'une guerre civile, qui finit par ne plus rien vouloir dire aujourd'hui, depuis qu'on dispose de ces descriptions, de ce que c'est qu'un civil, de ce que c'est qu'un combattant. Est-ce qu'une maman qui a un bébé au dos et qui va au pillage, est-ce que c'est un combattant, est-ce que c'est un civil? Enfin bref, il y a un travail critique sur l'ensemble des catégories qui bouleverse, si on regarde au niveau de l'audience, au niveau du prétoire, au niveau de ce que disent l'ensemble des parties, l'ensemble des descriptions fournies par la défense, fournies par l'accusation, fournies par les témoins à charge, par les témoins à décharge, par le contre-interrogatoire de chacune de ces témoins, on finit par avoir un objet qui est un objet tout à fait étonnant, et dont le statut d'hypertexte, si vous voulez, si vous regardez l'ensemble des descriptions produites, vous allez trouver une richesse descriptive et vous allez voir à quel point ces institutions, dès lors qu'on ne les considère plus comme une voie unique, institutionnelle, ce qu'elles sont aussi, mais si on les regarde du point de vue dans une sociologie internaliste, c'est-à-dire en regardant ce qu'elles produisent dans leurs actes effectifs et non pas déclaratifs et normatifs, on va avoir une espèce de tissage, de travail critique, perplexe, parce que, au fond, loin de l'horizon principiel en termes de droits de l'homme qui est le sien et de ses discours que nous connaissons tous ici, contre l'impunité, pour l'impartialité, l'immunité, etc., etc., on a tout à coup une scène, un prétoire, qui réunit des acteurs extrêmement disparates, et c'est juger, faire venir de près des acteurs qui viennent de loin. Donc je ne sais pas si au fond le fait de dire juger de loin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on transporte, qu'est-ce que les gens qui viennent de près, de loin transportent, comment c'est entendu, comment c'est jugé, avec quel type de porteur de qualification. C'est tout ça qu'il importe de regarder si on veut voir, par exemple, et je vais prendre l'exemple, par exemple, à la CPI de Kony, de Joseph Kony, que nous venons d'entendre. Donc, de façon tout à fait magnifique, l'auteur a montré comment apporter une espèce de critique sur la façon dont l'affaire a été déférée par Mousseveni lui-même à la cour, et elle a très bien montré comment en fait Mousseveni, en déférence, qui est une compétence de la cour, il est tout à fait normal que un état parti défère une situation, mais il défère quoi? Une situation. Et quand on dit déférer une situation, ça modifie la scène de crime. C'est-à-dire que ce qui va être investigué, quand on dit une situation, la situation Ouganda, la situation Joseph Kony, ça veut dire que, au-delà de l'acte d'accusation, ça ne s'appelle pas acte d'accusation à la CPI, mais disons de l'acte d'accusation, il va y avoir, même si le protocole des accords qui ont lieu au moment des accords, au moment où l'accusé est déféré, et qui sont une partie non publique de la description. On ne sait pas très bien ce qui s'est dit entre le procureur et Mousseveni. Mais on va en apprendre beaucoup en sachant lire l'acte d'accusation. Il n'y a pas eu encore d'audience de confirmation des charges, c'est très particulier puisque l'accusé est en fuite, mais on ne peut pas dire, pas parler de la position de la cour, on peut parler de la position du procureur et de la façon dont la cour a été saisie. Et donc, puisque la cour est saisie d'une situation, elle est d'emblée dans du politique et d'emblée dans des types de contraintes de type relations internationales, politique gouvernementale, stratégie. Et là, effectivement, comme on vient de nous le montrer, on a quoi? On a la stratégie de Mousseveni, on ne voit pas pourquoi Mousseveni n'aurait pas de stratégie, et des stratégies de la cour pour se faire valoir pour telle et telle et telle raison. Mais là ne s'arrête pas le récit, là ne s'arrête pas la situation. Maintenant, si jamais il arrivait qu'on arrêtât Joseph Kony, on aurait des protocoles de discussion d'un certain nombre de choses. Dans l'affaire Congo, par exemple, dans l'affaire qui n'est pas jugée, qui est une affaire dont on prépare simplement aujourd'hui l'architecture de jugement, qui met toutes les audiences, sauf s'il y a des questions de nouveaux témoins de la cour, mais probablement pas. Donc on est tout à fait à la fin des audiences. Les questions qui se sont posées, quand on regarde les questions qui ont été posées, par exemple, en Sierra Leone, portent sur les techniques précises d'utilisation des fétiches, leur nom, la situation dans laquelle ils sont utilisés, le type de chaîne de commandement entre le féticheur, etc., etc. Et puis, on a des qualifications de type plus général. Vous savez qu'on est là dans des économies de responsabilité individuelle, mais il va bien falloir, pour des crimes collectifs, mettre en place des techniques de description du collectif et des liens qui unissent les perpétrateurs entre eux. Donc là, il y a des techniques de mise en collectif. Ça peut être entreprise criminelle commune comme au TPI, ça peut être d'autres formes comme à la CPI de prise en charge du collectif malgré les imputations individuelles. Mais quand on prend en charge le collectif et qu'on doit le décrire, eh bien on décrit un organigramme. Par exemple, en ex-Yougo, en Bosnie, on a les descriptions du SDS, c'est-à-dire le groupe politique qui a mis en place l'épuration ethnique dans l'est de la Bosnie à Srebrenica. Et là, on a des descriptions d'organigrammes de partis qui décrivent par le menu un certain nombre d'actes. Comme je suis anthropologue, je suis allée sur le terrain pour vérifier un certain nombre de choses. Mais bon. Et donc, cette espèce de travail va immédiatement être contrecarré. Et le récit va être... les accents de ce récit vont être contrecarrés par la défense, qui va dire d'abord il n'était pas là, ensuite c'était pas lui, ensuite c'était pas là, ensuite c'était pas des AK-47, c'était des je sais pas quoi, etc., etc., etc. Et pas du tout, et d'ailleurs ce témoin il n'est pas crédible, etc. On est dans ce type de proposition. Et donc, ensuite, si vous voulez, vous avez dans la culture du relativisme aujourd'hui, c'est-à-dire dans la culture de la déconstruction, ce type de relativisme, ce type de plusieurs versions, etc., etc., doit trouver des modalités de mise à l'épreuve. Et ça, c'est empirique. C'est-à-dire que ces cours, avec leurs principes, sont en fait mis à l'épreuve. Enfin, les grands principes du droit pénal international, du droit humanitaire, sont mis à l'épreuve de leur propre procès, c'est-à-dire de la rencontre avec des types d'empirie qui organisent le réel ou qui organisent telle ou telle scène de crime avec des réseaux longs, parce que la scène de crime incriminée, on voit constamment qu'elle a des réseaux de plus en plus longs et que la Cour n'arrive pas à clore cette question du réseau des causalités, du réseau des corps, du réseau des raisons et des causes. Alors, je voudrais que vous voyiez bien ces cours aussi comme des laboratoires où va s'élaborer une réflexion sur le rapport à la vérité, sur ce que c'est que l'implication des acteurs dans leur récit, etc., etc., et que s'agissant, par exemple, de même que, s'agissant de Museveni, par exemple, et de la façon dont il a agi dans l'affaire Ouganda, moi, dans l'affaire Congo, j'ai toute la journée des témoins qui disent « Museveni a envahi le Congo RDC, c'est l'UPDF qui a massacré, etc. » Et il apparaît dans la bouche de tous les témoins, mais aussi dans l'acte d'accusation du procureur, comme le principal perpétrateur. Donc, si on regarde les procès de la zone et qu'on les met côte à côte, et croyez-moi que les juges communiquent, on a tout à coup, on va arriver à des discrepancies, à des drôles de situations où, dans une affaire Museveni, et non pas au nom de l'égalité ou des faits ou de la partialité. Là, ce n'est pas comme dans l'affaire Orić versus Krstić, c'est-à-dire arrêter à la suite le tueur de Srebrenica et le défenseur de Srebrenica. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas du tout dans des problématiques, dans des équivalences morales supposées, complètement aberrantes, mais supposées. On est dans des discrepancies non voulu, c'est-à-dire des écarts de réalité non voulus. On a Museveni qui demande à ce qu'on juge une situation, et dans le procès d'après, il est un des principaux coupables nommés par tous, y compris par le procureur, dans une affaire. Maintenant, quand on regarde effectivement la description qui a été faite sur l'Argentine, on a là quelque chose de tout à fait passionnant, là aussi, parce qu'on voit bien effectivement que les juges, mais aussi la plupart des procureurs et beaucoup de la génération des assistants juridiques, la génération des 35-45, est extrêmement intéressée à faire valoir les rapports d'ONG qui leur parviennent et qu'ils assimilent tous, le sachant ou ne le sachant pas, à la vérité du récit. Et là, il y a quelque chose dans cette histoire de demande de vérité par la société civile, quelque chose d'extrêmement fort à l'intérieur des cours pénales internationales. C'est un concept qui circule dans les couloirs, entre les acteurs, etc., constamment. Oui, mais, et la vérité, ils ont quand même droit à la vérité, on entend ça constamment à la cantine, constamment, ils ont quand même droit à la vérité, etc. Donc il y a des infra-déclarations comme ça qui... Et le travail sur... Je trouve que dans chacune des trois communications, on voit bien le rôle symbolique de passage par la reconnaissance d'une décision judiciaire. Quand c'est impossible, comme en Argentine, toutes ces stratégies, toutes ces techniques de faire entendre sa voix et de les faire porter par certains types de collectifs jusqu'à ce que la pression de la société civile fasse que ça ne puisse plus rester inaudible. Mais, et là je pense aux travaux de Martina, il faut aussi, s'agissant de Srebrenica par exemple, prendre en compte, elle a pris en compte avec beaucoup de force les façons dont la société civile s'est emparée d'un certain nombre de questions et a pu faire pression sur le TPI, mais un certain nombre de collectifs ont aussi fait pression dans des techniques de dénégation. Et ça, énormément. Et aujourd'hui, avec Mladic, encore. Constamment. Et donc, effectivement, ça, ce serait à décrire, c'est-à-dire les groupes qui enquêtent. S'agissant des fosses à Srebrenica, je voulais vous dire que, comme vous le savez, on n'a pas trouvé de corps à Srebrenica pendant longtemps. Ce sont les travaux des enquêteurs qui, ne trouvant pas de corps, distribuant les rares corps qu'ils trouvaient aux familles, qu'ils faisaient reconnaître à cause d'une chaussure, etc., on finit par comprendre, une fois les tests ADN trouvés, que quand on rendait un corps, il y avait un bras d'un tel, un fémur d'une telle, etc., et que donc les corps avaient été bougés. Et c'est depuis, ex post, depuis cette découverte, que le Ruez, un commissaire de police, a pu montrer que les fosses avaient été bougées, sachant l'arrivée des enquêteurs du TPI, et que donc l'ingénierie mettant en place, avec des très grosses machines, le déplacement des corps dans des fosses secondaires et tertiaires, quelquefois à 500 km de là, a mis en place des techniques d'investigation des fosses, et qui montrait l'intention, par exemple, qui montrait aussi certaines propriétés de la technique des techniques de génocide ou de génocide. Donc voilà, je voulais dire aussi que ces trois textes montrent bien, si vous voulez, je serais très laudative sur chacun de ces textes qui montrent bien, seconde après seconde, séquence après seconde, les techniques de mise à l'épreuve de la vérité, de contestation de la notion même, etc., que sont ces mouvements. Simplement, je dirais que sans doute faut-il aussi, s'agissant de la société civile et s'agissant de décrire ces prétoires comme des forums, se rendre compte que s'ils sont le prétoire de certaines mères de Srebrenica, ils sont aussi le prétoire de Vojislav Šešelj, qui fait, ou de Milošević, depuis le prétoire, fait l'apologie du système ultranationaliste, qui, depuis sa cellule, fait continue son travail électoral, etc., etc. Donc, c'est tous ces aspects, toutes les façons dont ils sont reçus par les sociétés locales qu'il faut sans doute regarder, ce que d'ailleurs ont fait ces trois interventions. Merci.